3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production. Le tout enrobé d'une sauce très rétro.
Dans notre édition d'aujourd'hui, nous allons parler drames de guerre. Et dans les drames de guerre, normalement, la popularité joue entre la guerre du Vietnam, mais également la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce conflit-là qui m'intéresse aujourd'hui. Mais je ne voulais pas tomber dans le concept traditionnel, c'est-à-dire on va parler de Saving Private Ryan, des 12 salopards ou d'autres types de films du genre. Non, j'avais le goût de faire quelque chose de différent pour cette première émission sur les films de guerre. Et donc, j'ai décidé qu'on allait plutôt se concentrer sur deux points de vue en rapport avec la guerre de l'Atlantique. Du côté des Américains, on va regarder le côté des destroyers avec le film Greyhound, qui a été distribué en 2020 et qui met en vedette Tom Hanks. Et à l'opposé, on va regarder la vie dans un sous-marin avec une vue plus dirigée du côté allemande avec le film Das Boot, qui a été réalisé par Wolfgang Petersen en 1981. Donc, deux visions totalement opposées de cette deuxième guerre qui frappa le monde et qui s'attardera pour nous à ce conflit dans l'Atlantique. Ou est-ce que d'un côté, nous aurons les Américains à bord de destroyers qui vont chercher à détruire des sous-marins qui s'attaquent à un des convois alliés? Et de l'autre côté, eh bien, nous allons regarder la vie de l'équipage d'un sous-marin allemand qui, eux, reçoivent une mission qu'on pourrait appeler suicidaire et qu'ils devront mener au péril de leur vie. Donc, mettez votre casquette de capitaine et préparez vos torpilles parce que dans le prochain 45 minutes, vous allez faire un voyage au-dessus de l'océan, mais également en dessous de l'océan. Et vous allez voir deux côtés d'une même médaille qui nous montreront à quel point l'être humain est une personne résiliente et que malgré le fait qu'il soit soumis à des situations presque impossibles, réussit quand même à se démarquer et à montrer ce qu'est un véritable héros.
Happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice-cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing. They're so good.
You get more out of life when you go out to a movie.
Hi there, fans. Stand by for cool-off with Lion's Mane. New Supersonic Zoom, the big ice lolly with free picture cards. Hey, get this. New Super Seajet, a three-flavor knockout. And the first ice lolly specially for girls. It's fab. Unfasten your seatbelts, lolly lickers. Cool it with Lion's Mane. On sale now.
And now, on with the show.
Félicitations pour ton premier commandement. Enfin.
J'espérerai toujours te retrouver, Evie. Même si je suis à un millier de kilomètres.
Escorte aérienne à Greyhound. Vous serez hors couverture aérienne pour les 5 prochains jours. Combien de traversées cela vous fait?
C'est ma première.
J'ai un écho.
À mon avis, c'est un U-boat.
Il essaie de nous passer par-dessous!
Faites!
Nous l'avons coulé.
Fusée de détresse, commandant.
Les navires du convoi ont été touchés.
On a une meute de loups aux trousses.
U-boat, tribord avant!
Nous avons perdu 7 bâtiments et 50 âmes.
C'est grâce à ce que vous avez fait hier qu'on est là aujourd'hui.
C'est insuffisant.
Tirez quand ils sont emportés!
La cible a disparu, commandant.
Les voilà qui arrivent.
Qu'est-ce qu'on va faire?
On va déchaîner les feux de l'enfer sur eux.
Et pour commencer notre programme double d'aujourd'hui, je vous parle du film Greyhound, ce drame de guerre produit par la compagnie Sony Pictures, qui a été présenté en streaming sur Apple Plus le 10 juillet 2020. Ce film américain, canadien et chinois d'une durée de 91 minutes a coûté plus de 50,3 millions de dollars à produire, mais malheureusement, comme c'est un film qui a été distribué sur Apple Plus en streaming, bien sûr, bien, vous comprendrez qu'il n'y a pas de box-office. Au niveau de la réalisation, eh bien, c'est le réalisateur américain Aaron Schneider qui nous avait donné Get Low en 2009 qui s'est occupé de la mise en scène. Schneider n'a pas réalisé beaucoup de films. D'ailleurs, je pense que c'est son deuxième ou troisième film en carrière puisque lui, il est principalement plus un directeur photo sur des productions. Et donc, il va adapter le scénario qui a été écrit par l'acteur Tom Hanks qui, lui, s'est basé sur la nouvelle The Good Shepherd de C.S. Forrester. Au niveau de la distribution, on retrouve bien sûr Tom Hanks, Stephen Graham, Rob Morgan, Elizabeth Shue, Manuel Garcia Rolfo, Carl Glusman, Tom Brittany et bien sûr un des fils de Tom Hanks, Chet Hanks. On se retrouve donc en 1942, plus précisément en février, et on suit les aventures du capitaine Ernest Cross, qui commande pour la première fois de sa carrière un destroyer américain, qui lui est chargé d'escorter un convoi de ravitaillement composé de 37 navires alliés. Pour Cross, il s'agit ici de son premier commandement. Et alors qu'il doit traverser l'Atlantique Nord en direction de Liverpool, eh bien, il voit son convoi être attaqué par un regroupement de sous-marins allemands qui, eux, n'ont qu'une idée en tête, c'est-à-dire détruire le plus de navires possible. Cross devra non seulement se fier à son instinct, mais également passer par-dessus son manque de confiance pour essayer de sauver le plus de navires possible à travers les quelques 48 heures où il devra franchir une zone où il ne peut recevoir aucune aide, que ce soit de la part des Américains ou que ce soit de la part des Britanniques. Le film devait à l'origine sortir aux États-Unis le 25 janvier 2019. Mais malheureusement, à cause de problèmes techniques, Sony Pictures a dû repousser la date de sortie du film au 12 juin 2020. Le problème, c'est que le COVID-19 a totalement changé la donne et ça l'a forcé Sony Pictures à vendre ses droits de distribution aux différents postes de streaming. Donc, à travers ça, plusieurs postes vont se battre pour essayer d'obtenir les droits de diffusion et c'est finalement Apple TV Plus qui va remporter ce qu'on appelle le bidding war au coût de 70 millions de dollars pour pouvoir diffuser sur son poste le film de guerre. À l'origine, le réalisateur Aaron Schneider et l'acteur Tom Hanks étaient en discussion pour réaliser le film Greyhound à partir de la fin de 2017. Cependant, Steven Spielberg est arrivé avec le projet de The Post et ça l'a forcé Tom Hanks à mettre sur la glace le projet de Greyhound et de pouvoir se concentrer sur le film de Spielberg. Mais dès le moment que la production de Spielberg a été terminée, il a pu se retourner du côté de Aaron Schneider et de pouvoir s'attarder à la production du film Greyhound. Mais ça a été quand même quelque chose de très positif pour le réalisateur Aaron Schneider, qui lui, pendant ce temps-là, en a profité pour construire un site web sur lequel il a placé toute l'information qu'il a été capable d'amasser concernant justement les destroyers de la Deuxième Guerre mondiale et les différents sous-marins allemands de cette même période. Donc, il va aller chercher des photographies d'archives, il va aller chercher de l'information, la façon que les bateaux étaient construits, la façon qu'on se comportait lors des confrontations entre destroyers et sous-marins. Et en mettant ça sur un site web, ce que ça l'a permis de faire, ça lui a permis de tout simplement mettre toute cette information-là accessible à tous les gens qui allaient travailler sur la production par la suite, que ce soit autant les acteurs que le directeur photo, que ce soit les gens au niveau de la conception des décors. Donc, dès que quelqu'un avait besoin d'une information, il se rendait sur le site que Schneider avait construit et il était capable d'obtenir toute l'information désirée. D'ailleurs, le réalisateur Aaron Schneider en a même profité pour se rendre au Bâton Rouge en Louisiane pour aller prendre plus de 10 000 photos du USS Kidd, qui était à ce moment-là l'un des derniers destroyers à avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale et qui a été retiré par la marine américaine. Et donc, ça l'a permis à ce moment-là aux techniciens de construire des modèles 3D du destroyer afin de créer une réplique du bateau de façon à ce qu'on puisse filmer les séquences. Car il faut comprendre que le film a été entièrement filmé sur un stage au sec. Il n'y a aucune séquence qui a été filmée sur l'océan. Il n'y a aucune séquence qui a été filmée près de l'eau. Tout ce qui s'appelle océan, tout ce qui s'appelle eau que l'on voit dans le film, tout ça a été réalisé à partir du CGI. Pour compléter certaines séquences, on va s'en aller à partir de janvier 2018 sur le bateau canadien, le Montreal, qui était situé à ce moment-là dans l'océan Atlantique Nord. Et on va se rendre là avec une équipe de 9 techniciens et 10 caméras. Donc, du numérique mélangé avec des acteurs réels et des décors qui sont des reproductions de vaisseaux de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce dont on va avoir le droit pour le film Greyhound. Au niveau des forces du film, eh bien, écoutez, au niveau de ce qui s'appelle les moments de tension, c'est extrêmement réussi. On parle d'un film de moins d'une heure et demie, donc c'est sûr et certain que le film va à une vitesse effrénée et on passe son temps à passer d'une attaque à l'autre. Tom Hanks livre ici une performance qui est vraiment solide. Il tient le film sur ses épaules parce que comme tel, c'est le seul acteur qu'on connaît. Tous les autres acteurs sont des personnages secondaires et des personnes qui ne vont pas vraiment prendre leur place dans le film. C'est le Tom Hanks show et c'est ce à quoi vous devez vous attendre à ce moment-là. La force de Tom Hanks également, c'est de montrer l'insécurité du personnage. Parce qu'en faisant ça, il montre quand même une certaine crédibilité à celui-là qui, à ce moment-là, va même arrêter de manger, va arrêter de dormir parce qu'il sait que chaque moment est extrêmement important et que la survie des bateaux dont il a la garde dépend principalement de sa présence sur le bridge et donc il ne peut pas s'en aller. Il y a même un moment où est-ce qu'il va être obligé de demander à enlever ses bottes et avoir ses pantoufles parce qu'il s'est blessé. Parce que justement, à force de marcher sur le bridge à gauche et à droite sans arrêt, eh bien, il va se créer des ampoules. Même la douleur corporelle ne l'empêchera pas de se rendre jusqu'au bout de sa mission qui est d'essayer de sauver le convoi dont il a la garde. On n'est pas tellement conscient des Allemands, sauf quand ceux-ci réussissent à communiquer ou à tomber sur la ligne radio du Greyhound. Et on va les entendre à ce moment-là essayer de faire ce qu'on appelle du bullying psychologique en essayant de leur dire « Bon, écoutez, vous allez tous mourir, on va vous détruire un par un. » Donc, c'est plus une guerre psychologique qui embarque entre le capitaine du destroyer et, bien sûr, cette armada de 5 sous-marins allemands qui ont décidé tout simplement de détruire les vaisseaux alliés. Au niveau de la mise en scène, le réalisateur fait en sorte justement qu'on ne s'attende pas trop à la psychologie du personnage, puis on va plus se baser sur l'action, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise affaire d'un certain côté, puisque le film ne dure que 90 minutes. Mais d'un autre côté, ça nous amène à nos points faibles, puisque les séquences sont quelque peu répétitives. On a un sous-marin qui détruit un bateau, on s'en va sauver les gens, par la suite, on va s'attaquer au sous-marin, on essaie de régler le cas du sous-marin, on règle le cas du sous-marin, il y en a un deuxième qui descend d'un autre bateau et on continue comme ça pendant 90 minutes. Donc, la faiblesse du film, c'est que ça devient redondant à un certain moment donné, mais l'avantage d'avoir une mise en scène qui, justement, est très axée sur l'action visuelle, c'est-à-dire que notre personnage principal passe son temps à bouger, donc à ne pas rester sur place, ça amène une action qui fait que ça nous permet de plus facilement supporter justement ces effets répétitifs-là. Au niveau des effets spéciaux, bien, comme c'est fait en CGI ou en effets spéciaux numériques, bien, malheureusement, les effets spéciaux, c'est inégaux. Il y a des effets spéciaux qui sont très bien faits. Il y en a d'autres, des fois, qui laissent à désirer. On a l'impression qu'on n'a pas mis l'accent à 100% sur les effets spéciaux ou qu'on a manqué de temps pour finaliser le tout. Mais quoi qu'il en soit, demeure quand même un produit quand même de bonne qualité. Un autre point faible, je considère que c'est la relation avec le personnage de Elizabeth Shue que je considère totalement inutile. On voit Elizabeth Shue au début du film, on voit Elizabeth Shue à la fin du film, mais sa raison d'être est totalement inutile. On aurait pu enlever ça et le film aurait été tout aussi bon. L'autre point aussi que je trouve dommage, c'est le personnage de Tom Hanks. Parce que autant tantôt, on disait que Tom Hanks apportait une certaine insécurité à son personnage qui lui donnait une certaine crédibilité. Par moments, sachant très bien que c'est un capitaine de vaisseau, notamment un capitaine de destroyer, ça a beau être son premier commandement. À un moment donné, je trouve que ça devient comme incrédible le fait de le voir continuellement regarder au-dessus de son épaule puis de regarder que les autres membres de son équipage sur le bridge le regardent, pas sûr qu'ils prennent les bonnes décisions puis pas certain que le capitaine qu'ils ont, c'est peut-être le meilleur capitaine pour les mener à bon port. Puis on va voir ça régulièrement dans le film, puis je trouve ça fatigant un petit peu parce que normalement, sur un bateau, un capitaine, il est capitaine, puis il prend des décisions et puis normalement, son équipage va l'écouter puis va le suivre. Mais là, on sent qu'il y a un inconfort entre l'équipage et le capitaine, notamment créé par le fait que le capitaine en est à sa première œuvre puis qu'il a une insécurité à l'intérieur, puis qu'il, en les regardant, il fait transférer cette insécurité-là qui rend son équipage insécure. S'il a eu la chance d'avoir un commandement, c'est parce que techniquement, il est supposé être prêt. Donc, il ne devrait pas montrer de l'insécurité à son monde. Puis ces gens-là ne devraient pas se dire « Il va-tu nous amener à bon port? » Finalement, en bout de ligne, non seulement il va le faire, mais il va le faire d'une façon où est-ce que malgré le fait que il a perdu certains bateaux, puis qu'il y a des gens qui sont décédés et qu'il va dire « Ces gens-là, c'était des hommes qui sont tout simplement partis dans l'oubli puis qu'ils ont disparu. » Il va quand même être félicité parce que l'armée des Alliés n'arrivera tout simplement pas à croire qu'il a réussi à amener autant de bateaux à travers cette zone où, pendant 48 heures, il ne pouvait avoir d'aide. Donc, les points négatifs peuvent être amenés du point positif, mais les points positifs peuvent être amenés du point négatif. Ce qui fait que Greyhound est quand même un bon film dans les circonstances, mais comme je disais un petit peu tantôt, ce qui manque, c'est un petit peu de finition. Au niveau de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Blake Neely qui s'occupe de la musique du film. Bonne trame sonore. Blake Neely, c'est lui qui fait les trames sonores des séries télé Arrow, The Flash et Supergirl. Et bien sûr, bien, la musique qu'il nous a donnée pour le film Greyhound, vous pouvez la retrouver sur la lanière Lakeshore Records et ça a été sorti sur le marché le 10 juillet 2020. Voici donc un extrait du thème de Greyhound.
good food galore.
Quick as a wink.
Bye.
Ice cream bars. It's the handy way to enjoy smooth, rich, creamy ice cream. Get some.
Popcorn freshly popped and buttered.
Mm-mm.
Look good? Sure, it looks good, and it tastes even better. Get some now.
Crisp, flavorful fish sandwiches, golden brown and crunchy outside, and tender and juicy inside for a snack or a meal.
And now, on with the show.
Par le réalisateur de Dans la ligne de mire et de Air Force One. Imaginez un monde où vous ne pouvez voir qu'avec vos oreilles, où la mort tourne sans arrêt au-dessus de vous, où l'air que vous respirez est rationné et où la seule évasion possible est la terreur. Six nominations aux Oscars, dont meilleur réalisateur, meilleure prise de vue et meilleure adaptation. Columbia Pictures présente le chef-d'œuvre de Wolfgang Petersen. C'est la grandiose et inoubliable aventure d'une poignée d'hommes perdus, engagés dans une guerre perdue, sur une mer sans pitié. Le monde devient fou et qu'on ne peut plus compter sur ses propres chefs. Quand tout ce qui reste de la dignité humaine se réduit à quelques souvenirs ternis, les chasseurs se transforment en gibier. Vous ne l'avez jamais vu comme ça, avec de nouvelles scènes. Vous ne l'avez jamais entendu comme ça. Une fabuleuse fresque épique. L'un des films les plus acclamés de tous les temps.
Et pour conclure notre programme double, Das Boot, ou encore en français Le Bateau, un drame de guerre allemand qui a été distribué en Europe par la compagnie New Constantin Film le 17 septembre 1981 et qui a été distribué sur le continent nord-américain par Columbia Pictures le 10 février 1982. Armé d'un budget de 18,5 millions de dollars, Das Boot va ramasser plus de 84,9 millions de dollars à travers le monde entier. Et il y a plusieurs versions de ce film. Donc, on a la version cinéma qui a duré 159 minutes. On a le director's cut de Wolfgang Petersen qui a duré 208 minutes. On a également la vidéocassette ou la version vidéo qui est sortie, elle, à 138 minutes. On a également la cut originale avant la coupure du director's cut qui fut de 293 minutes. Et la version finale qui est appelée la original uncut miniseries version qui, elle, tape le 300 minutes. Au niveau de la réalisation, on parle bien sûr du metteur en scène Wolfgang Petersen, ce réalisateur allemand qui nous avait donné des films comme Air Force One, Enemy Mine et Outbreak. C'est également lui qui va écrire le scénario, lui qui avait déjà écrit le scénario de The Never Ending Story et Shattered en 1991. Et le producteur du film, eh bien, sera le producteur allemand Günther Rohrbach, qui avait produit Stalingrad et The Never Ending Story. Wolfgang Petersen avait, quant à lui, écrit le scénario adapté du roman du même nom de Lothar Günther Borkend. Au niveau de la distribution, on retrouve les acteurs Jörgen Prochnow, Henrik Lehmann Willenbrock, Herbert Grönemeyer, Klaus Wannemann, Hubertus Benst et Martin Semenlorg. Le film débute avec la phrase suivante.
30 000 des 40 000 Allemands qui étaient à bord de sous-marins durant la Deuxième Guerre mondiale ne sont jamais revenus au port. Et c'est sur cette ligne que nous allons commencer le film « Das Boot », qui raconte l'histoire, finalement, de l'équipage d'un sous-marin durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en 1941, il y a un correspondant de guerre allemand, Werner, qui se fait donner la mission de prendre place à bord d'un sous-marin qui s'en va dans l'Atlantique confronter les navires alliés. À l'intérieur, pour lui, au début, tout semble beau. On commence à prendre des photos, à ramasser des textes, mais rapidement, on va découvrir de son côté les véritables dangers qui se cachent derrière toutes ces missions et la vie difficile qu'ont les membres de l'équipage à bord de ce sous-marin qui, à n'importe quel moment, peut devenir leur tombeau. Après plusieurs jours d'attente où il ne se passe absolument rien, le U-Boat va découvrir un destroyer américain ainsi qu'un convoi et il va s'attaquer à ce dernier, mais va être pris d'assaut par le destroyer qui va chercher à le détruire. Mais le sous-marin va réussir miraculeusement à s'en sortir et donc au moment où on décide de revenir à la maison pour un repos bien gagné, eh bien on reçoit une mission où est-ce qu'on va demander à l'équipage du sous-marin de s'en aller par le passage du détroit de Gibraltar qui est contrôlé par la flotte britannique, ce qui semble une mission totalement suicidaire. Est-ce que l'équipage s'en sortira? C'est ce que vous découvrirez avec le film en question. C'est sûr et certain que je vous dirais en partant, ce qui est plus intéressant d'écouter de Das Boot, c'est vraiment la version longue de 6 heures, soit la version de 300 minutes. Pourquoi? Parce que ça permet de vraiment voir le développement des personnages, mais de vraiment apprécier le spectacle. Parce que Das Boot, à l'origine, est beaucoup plus un film qui nous montre la vie à bord d'un sous-marin qu'un film d'action ou un film de guerre. Et c'est ce qui fait probablement que ce long-métrage est sans contredit le meilleur long-métrage à avoir été réalisé sur les sous-marins, que ce soit allemand ou américain, de toute l'histoire du cinéma en général. Le film va s'inspirer des missions vécues durant la Deuxième Guerre mondiale par Lothar Günther Bockheim, qui, en 1941, était également un correspondant de guerre et qu'il s'était joint à un équipage de sous-marins allemands durant la fameuse bataille de l'Atlantique. En 1973, il va publier une nouvelle basée sur ses expériences de guerre, qui va s'intituler bien sûr « Das Boot » ou encore « The Boat » en anglais, ou en français « Le bateau », et écrira 22 ans plus tard une suite intitulée « Die Festung ». Dès 1976, du côté américain, on va essayer de faire une adaptation du roman Das Boot. Il y a plusieurs réalisateurs américains qui vont être considérés, même qu'à certains points, on avait réussi à embarquer dans le projet Robert Redford, qui devait jouer le capitaine. Malheureusement, ce projet-là est tombé à l'eau. On a décidé de refaire un second concept qui, à ce moment-là, mettait en vedette Paul Newman. Mais encore une fois, le projet est tombé à l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre sur une tablette le projet de Das Boot. Et c'était peut-être une bonne chose parce qu'à ce moment-là, les Allemands vont reprendre les droits et vont décider eux-mêmes d'adapter le roman. Et c'est à cet endroit-là que Wolfgang Petersen va rentrer dans le décor. On va commencer la production en 1979, une production qui va durer plus de 2 ans, dans laquelle Wolfgang Petersen va recréer un sous-marin allemand directement à partir de photographies prises dans un musée de Chicago. Das Boot est vraiment considéré comme un film qui est très proche de la réalité. On voit que Wolfgang Petersen a pris le temps de vraiment voir comment que les marins vivaient à bord du sous-marin. Et donc, il a même pris la peine de construire un sous-marin exactement comme un sous-marin original et de tourner ces séquences complètement à l'intérieur. La première séquence qu'on a filmée, on avait placé des écoutiers qui auraient permis de défaire le sous-marin et de pouvoir mettre la caméra à l'extérieur. Mais tout de suite, le directeur photo et le réalisateur se sont rendus compte que c'était une très mauvaise idée. Et vous allez remarquer que le reste du film, tout est filmé à l'intérieur du sous-marin. Donc, on ne défait pas les écoutilles. Et à ce moment-là, le directeur photo va créer lui-même un nouveau concept de caméra minuscule pour lui permettre de se promener à l'intérieur du sous-marin à travers les différents acteurs qui s'y trouvaient. Hans Joachim Krung, qui travaillait comme officier à bord d'un sous-marin U-219, participera au tournage en tant que consultant, ce qui va augmenter l'authenticité du long-métrage. On va construire plusieurs maquettes du sous-marin, mais on va notamment construire deux versions grandeur nature, un pour filmer les séquences à l'intérieur, mais on va en filmer un également sur lequel on va être capable de filmer les séquences extérieures. Et c'est pas juste filmer la tour sur laquelle se trouvaient les acteurs lorsqu'on faisait des grands plans sur ceux-ci, mais on a véritablement construit un sous-marin qui pouvait servir sur le tournage en pleine mer. Ça va bien lorsqu'il n'y a pas de tempête puis que tout va bien, mais lorsqu'on a des séquences où l'eau est très agitée, le sous-marin, à ce moment-là, malheureusement, va se sectionner en deux et va couler. On va être capable d'aller quand même le rechercher et de le reconstruire de façon à s'en resservir pour la séquence finale du film. Au total, la grande majorité du budget, soit plus de 15 millions, va être dépensée pour construire les fameux sous-marins. Une petite anecdote, lorsque justement on parlait du tournage au niveau de la tour du sous-marin et lorsque c'était des plans rapprochés, il y a une séquence à un moment donné où on a des membres de l'équipage qui se trouvent sur cette tour. Et la façon que ça marche, c'est qu'on a mis des espèces de piliers pour envoyer l'eau directement sur les acteurs pour faire justement croire qu'ils sont vraiment sur l'océan. Sauf qu'à cause de la force de l'impact, à un certain moment donné, un des acteurs, Jan Feder, va être totalement propulsé de la tour où il se trouvait. Et le réalisateur Wolfgang Petersen va lui dire « Feder, excellente séquence, très bonne idée, j'aimerais ça qu'on la reprenne. » Sauf qu'il s'est rendu compte par la suite que ce n'était pas quelque chose que Feder avait fait intentionnellement et qu'il s'était cassé quelques côtes. Et donc, il a fallu tout simplement l'amener à l'hôpital. Et William Petersen a décidé de garder cette même séquence et on va refilmer plus tard une séquence où on voit le personnage qui a le pied coincé un petit peu plus loin sur le dessus du sous-marin pour continuer la séquence, mais on a dû faire ça beaucoup plus tard et attendre que l'acteur revienne de l'hôpital. D'ailleurs, on y a fallu réécrire quasiment tout le rôle du personnage de Pilgrim, qui était interprété bien sûr par Jan Feder, parce qu'il fallait maintenant le mettre soit toujours couché dans son lit ou être dans des moments où il n'était pas sur ses deux jambes, parce qu'il fallait aller le chercher à l'hôpital et l'amener sur le plateau de tournage. Et dès qu'il avait fini, le prendre avec une civière du plateau de tournage et le ramener à l'hôpital, parce que non seulement il avait des côtes cassées, mais qu'en plus, il avait subi une importante commotion cérébrale. La première réplique du U-boat ou du sous-marin était une réplique dans laquelle on pouvait filmer à l'intérieur. Et cette structure-là avait été montée sur des tuyaux hydrauliques, ce qui permettait de bouger le sous-marin de gauche à droite et donner même jusqu'à un certain point un mal de mer épouvantable aux différents acteurs qui s'y trouvaient parce qu'on voulait reproduire tout simplement l'effet des vagues, surtout si le sous-marin était à la surface. On a même demandé aux acteurs de rester dans des endroits clos et de se tenir loin du soleil, de façon à ce que plus le tournage du film, qui pour une des rares fois pour des grandes productions était filmé en ordre chronologique, question de voir vraiment la barbe pousser d'une façon réaliste, mais également de voir le teint des acteurs devenir de plus en plus blême parce que les acteurs allaient passer plusieurs semaines, voire même plusieurs mois à l'intérieur d'un sous-marin et donc, par le fait même, pas prendre de soleil et donc de ne pas bronzer. Et donc, c'est la raison pourquoi plus vous avancez dans le film, plus vous allez remarquer que le teint des acteurs est de plus en plus pâle et que donc, on a l'impression à la fin du film que soit ils sont mal nourris ou que tout simplement, ils sont tous malades. Mais en réalité, c'était juste, on leur a demandé de ne pas se mettre au soleil pour garder un aspect véritablement authentique au niveau du tournage. Je le disais tout à l'heure, le directeur de la photographie, Just Vacano, a dû construire des nouveaux types de caméras. Disons que le Steadicam n'existait pas encore en 1981. Donc, vous remarquerez qu'il y a des séquences d'action où est-ce que la caméra suit à pleine vitesse les acteurs qui courent dans le sous-marin, qui passent d'un secteur à l'autre du véhicule. Et donc, les écoutilles sont très basses. Mais il a fallu agrandir les trous et c'est peut-être une des rares choses qui correspond pas avec d'un vieux sous-marin d'époque parce que le caméraman passait son temps à se frapper la tête sur le dessus des écoutilles à un point tel que même par moment, il avait dû être amené à l'hôpital. Donc, il a fallu lui mettre un casque sur la tête pour que s'il se cognait, qu'il ne se blessait pas. Mais en même temps, on a agrandi les portes quelque peu de façon à faire en sorte qu'il ne se cogne pas la tête à chaque fois. On calculait qu'il y avait à peu près la grandeur d'un bras bien allongé entre la partie droite et la partie gauche du sous-marin. Quand on parle de la partie droite et la partie gauche, on parle de la section où on pouvait marcher ou œuvrer à l'intérieur du sous-marin. Parce qu'il faut dire que de chaque côté, vous aviez soit tout ce qui est moteur, soit les torpilles, soit les lits, mais il y avait toujours quelque chose sur les côtés. Donc, l'espace central était très, très, très petit. Et donc, le caméraman devait passer à travers les comédiens qui étaient sur le plateau de tournage. Et ça, des fois, à une vitesse vraiment faramineuse, ce qui faisait en sorte que des fois, ça se terminait par des petits accidents. Das Boot est considéré comme étant le film le plus dispendieux de toute l'histoire du cinéma allemand, mais c'est également l'un des plus lucratifs et c'est une fierté pour l'Allemagne, car c'est un film qui représente très bien ce que les Allemands qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale à travers des sous-marins ont véritablement vécu à cette époque-là. Ce qui est encore drôle, c'est le fait que le film est sorti aux États-Unis en deux versions, une version allemande et une version traduite en anglais. Et bizarrement, le film, version originale allemande, a eu beaucoup plus de popularité que la version traduite en anglais. D'ailleurs, chose vraiment amusante, c'est que tous les comédiens principaux qui interprétaient un rôle dans Das Boot parlaient non seulement allemand, mais parlaient également anglais. Et donc, c'est eux-mêmes qui vont traduire leur propre voix dans la version anglophone. Le film va recevoir beaucoup de bonnes critiques et va même être nominé pour 6 Academy Awards, dont meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleur film étranger. Malheureusement, il ne va pas remporter de prix. Il a été également nominé au BAFTA Award et au DJA Award, mais malheureusement, encore une fois, Das Boot ne ramassera pas de prix. C'est principalement Wolfgang Petersen qui a ramassé la majorité de ces nominations-là, faisant de lui un réalisateur très recherché par la suite à Hollywood. Il s'agira également, pour sa période, en 1981, du film étranger qui a reçu le plus de nominations aux Oscars, donc aux Academy Awards, avec 6. Ça ne s'était jamais vu jusque-là. Bien sûr, ce sera quelque chose qui sera dépassé 16 ans plus tard avec le film de Robert Benigni, Life is Beautiful. Le film va être en partie financé par la télévision allemande, principalement les postes WDR et SDR, parce que justement, une fois que le film est sorti en salle, d'abord, on a créé une version de 6 épisodes de 50 minutes. Et lorsque ça a eu un gros succès, on est revenu par la suite avec 3 épisodes de 100 minutes, ce qui égale bien sûr la version longue de 6 heures, soit 300 minutes. Maintenant, lorsqu'on parle de Das Boot, on parle d'un film de guerre beaucoup plus psychologique qu'un film d'action. Donc, je vous dirais qu'au niveau de la production, c'est une production de prestige pour les studios ouest-allemands qui vont reproduire ici d'une manière incroyable la vie de l'équipage d'un sous-marin allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Et là-dessus, Wolfgang Petersen y va d'une main de maître, alors que sans éluder les allusions politiques qu'il a envers la Deuxième Guerre mondiale, il va beaucoup plus s'attaquer à l'aspect humain qu'à l'action. Et surtout, il va le filmer d'une manière qui va ressembler quasiment à un documentaire, ce qui fait que ça amène une touche beaucoup plus réaliste au niveau de ce qui se passe devant l'écran. Au moment où on s'attend toujours à avoir de l'action, bien, tout ce que vous avez peut-être dans les premières heures et demie, deux heures de film, bien, c'est justement l'attente qui se passe quelque chose. Et on voit tranquillement, pas vite, un équipage qui, au début, avait hâte de s'en aller au combat, qui tranquillement, pas vite, bien, s'ennuie et a tout simplement le goût de retourner au port. Ou encore, on voit monter une frustration incroyable parce qu'on s'attend à avoir une mission d'un jour à l'autre et cette mission ne vient jamais. Et on peut voir ici, à un moment donné, que même la colère monte entre les membres de l'équipage, à un point tel qu'on se fait des blagues un à l'autre, mais des fois, ça peut mal tourner. La façon de filmer aussi, on s'en va chercher physiquement la claustrophobie de l'endroit. Donc, le fait de filmer dans un sous-marin très compact et d'y mettre plein de choses. Je vous donne un exemple. On nous montre que quand on met de la nourriture, dans le sous-marin, bien, la nourriture, il n'y a pas de cuisine. Donc, elle va partir d'en avant du sous-marin jusqu'en arrière, mais elle est devant les outils de travail, elle est devant les moteurs, elle est devant les panneaux de bord, elle est même devant la toilette. Donc, le millimètre près du sous-marin est utilisé à toutes les fonctions possibles, que ce soit au niveau de la nourriture ou que ce soit du linge ou que ce soit bien d'autres choses, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Et cet espace claustrophobique-là, on le sent tout le long du film. Et le fait d'avoir la caméra à travers l'équipage font de nous non seulement un spectateur, mais même un membre de cet équipage-là. Et donc, on fait partie de cette claustrophobie-là, à un point tel qu'à un moment donné, ça en devient malaisant. Au niveau de la distribution, elle est impeccable. On voit vraiment qu'on va chercher les émotions. Lorsque les acteurs ont peur, on se demande si Wolfgang Petersen n'a pas un gun en leur direction pour leur faire peur réellement parce qu'on voit la peur dans leur visage. Lorsqu'on voit la folie, c'est la même chose. Donc, on sent que ces gens-là ont été mis dans un endroit clos et que tranquillement, on a fait monter une adrénaline négative pour justement aller capter ça sur l'écran et nous montrer à quel point que par moment, lorsque l'être humain est coincé dans un petit environnement sur une longue période dans le fond de l'océan, eh bien, disons que la folie n'est pas loin à côté. Les détails également réalistes de la vie de l'équipage sont extrêmement importants, notamment le fait de découvrir que dans un sous-marin avec plus d'une cinquantaine de membres à bord, on a juste une salle de bain. Ça peut amener des complexités. Donc, encore là, on reste vraiment très réaliste dans la conception du film. La direction photo également est excellente. La façon qu'on va faire pour prendre l'éclairage naturel du sous-marin et éclairer celui-ci d'une façon vraiment remarquable, que ce soit lorsque l'éclairage est normal, rouge ou bleu, on va toujours chercher quelque chose d'intéressant au niveau du visuel, ce qui fait que Das Boot n'est jamais ennuyant à regarder, même si des fois l'action n'est pas toujours là. Mais ça amène bien sûr nos points faibles et principalement le fait que, bien, comme il n'y a pas beaucoup d'action, pour plusieurs personnes, ça peut être un film qui peut être rempli de longueur et qui peut être un petit peu ennuyant. Mais si vous le regardez au premier degré, c'est sûr que c'est un film que vous allez détester. Si vous le regardez d'un côté psychologique, c'est un film que vous ne pouvez pas détester parce que c'est un film qui, tant qu'à moi, touche exactement là où il faut qu'il touche puis nous montre exactement ce qu'il a à nous montrer, surtout pour qu'on puisse comprendre comment ces gens-là se comportaient et surtout par quoi qu'ils pouvaient passer au niveau non seulement du moment de l'ennui où il ne se passe rien, mais également au moment de haute tension où est-ce que leur vie semble être continuellement en danger lorsqu'ils sont dans un état de guerre et qu'ils attendent tout simplement que les destroyers envoient tout simplement des bombes sous-marines pour essayer de les détruire. L'autre chose aussi qui est peut-être également un point négatif, c'est qu'on n'évite pas les clichés du genre. Donc, même que par moment, je vous dirais qu'on en rajoute peut-être un peu trop. Je vais aller un exemple, parler du capitaine qui passe son temps à parler à voix haute de ce qu'il pense, mais c'est peut-être pas une bonne chose quand tu es devant ton équipage. Contrairement à Greyhound qu'on a parlé en début d'émission, où est-ce que là, tu as un capitaine qui, lui, prend des décisions, mais il passe son temps à regarder son équipage pour voir si son équipage doute de lui ou pas, ce qui est très mauvais. Dans ce cas-ci, tu as un capitaine qui dit tout, puis c'est peut-être pas encore là la meilleure chose, parce qu'il passe son temps à analyser puis à dire, bon, ben là, ils vont faire telle affaire, mais tu devrais peut-être pas en parler, tu devrais peut-être t'occuper de ta logistique, puis laisser tes hommes faire leur job, puis pas t'écouter, puis juste se concentrer sur ce qu'on va faire, puis toi, te concentrer sur l'ennemi qui est au-dessus de toi. Quand il y a des scènes d'action, sont très bien filmées, sont enlevantes, ça bouge beaucoup, mais ça devient malheureusement extrêmement répétitif. Donc, ça aussi, c'est un point qui est malheureusement négatif. Le dernier point négatif que je peux amener, bien, c'est l'aspect des miniatures qui, comme un bon vieux film de Godzilla, par moments paraissent énormément, mais ça n'enlève rien au film parce que, quand même, Das Boot demeure une œuvre magistrale à voir absolument. Au niveau de la trame sonore, c'est Klaus Doldinger, qui est un compositeur allemand, qui nous avait donné la musique du film The Never Ending Story et Salt on Our Skin. La trame sonore du film était sortie en vinyle sous l'étiquette Atlantic Records en 1982. En 1997, Atlantic Records avait sorti la trame sonore en CD. Donc, une belle petite musique dont je vais vous faire écouter la musique thème à l'instant.
niveau de la cote de Mediafilm, Mediafilm donne une cote 4. Moi, personnellement, j'ai mis une cote 3 parce que malgré les défauts du film, il y a quand même une bonne dynamique qui est instaurée par le metteur en scène. Il y a quand même un bon roulement, ce qui fait que le 90 minutes passe quand même très vite. Alors, je considère que c'est un très bon film. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, Greyhound, il est pour tous. Il est général du côté de Mediafilm. Un film qui n'a pas trop de violence, même si c'est un film de guerre, se laisse quand même très bien regarder.
Du côté de la cote artistique Mediafilm, on le cote 3, donc très bon. Moi, j'y vais avec un 4 à cause des versions longues. Je vous suggère cependant, malgré le fait que c'est un film qui est long, je vous suggère fortement la version intégrale complète. Si même en DVD, vous avez la chance de vous le taper en allemand, c'est encore mieux parce que vous avez encore plus l'intensité des comédiens. D'ailleurs, c'est drôle, une petite anecdote que je n'ai pas dite, mais le bruit de la caméra était tellement fort dans le sous-marin que toutes les séquences, que ce soit en allemand ou en anglais, ont dû être reprises en studio. Donc, les acteurs ont dû refaire leur voix, que ce soit en allemand ou en anglais. Mais quand même, en allemand, ça sort beaucoup mieux. Donc, je vous suggère la version allemande complète et je vous suggère la version longue. Si vous ne voulez pas avoir trop de longueur et vous voulez plus sauter à l'action, essayez de vous trouver la version de 2h30 qui existe en DVD. Donc, à ce moment-là, ça vous permettra de condenser Das Boot et de vous concentrer beaucoup plus sur l'action. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, du côté de la régie du cinéma, le film est coté 13 ans indicatif. Moi aussi, je vais le coter 14 ans. Il y a quand même quelques scènes de violence, mais surtout le contenu qui est assez mature. On parle quand même de gens qui vivent à bord d'un sous-marin. Donc, puis disons que le début, ça fait passer un petit peu au début du Parrain, c'est-à-dire que ça se passe dans un party avant que les Allemands s'en aillent en mission. Donc, encore là aussi, là, voir des gens vomir, puis s'injurier, puis un peu de nudité, tout le kit. Donc, oui, c'est un film que je considère pour 14 ans, mais je suggère fortement aux parents de l'écouter avant pour s'assurer qu'un auditoire de bas âge, c'est accessible pour eux autres. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray disc, eh bien, c'est un film qui existe dans les deux formats. La mini-série avait été sortie en 2004 en DVD. Ça s'appelait Das Boot, The Original Uncut Version. En 2010, on avait sorti la Director's Cut qui durait 208 minutes avec quelques documentaires. C'était sorti également dans l'édition Blu-ray Disc en DVD. Et en novembre 2018, vous avez Das Boot, The Complete Edition. En Blu-ray, bien, c'est un coffret de 5 Blu-ray Disc. Dans le CD, vous aviez un coffret de 3 DVD. Ça comprend plus de 30 heures de matériel. Donc, vous allez avoir des documentaires et des choses comme ça. Vous avez la Director's Cut qui est dedans. Vous avez le Original Theatrical Version qui est à l'intérieur également. Vous avez la mini-série complète qui se trouve dedans également. Et vous avez plus de 202 minutes sur la version Blu-ray Disc de contenu de plus, que ce soit la trame sonore originale du film, que ce soit un audiobook, que ce soit des versions allemandes et des versions américaines, que ce soit des documentaires ou des entrevues. Une panoplie de choses. Donc, pour les amateurs de Das Boot, édition complète est probablement la pièce à acheter. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast.
si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.